samedi 24 mars, ravi de vous savoir au rendez-vous. Nous allons, comme chaque samedi à cette heure-ci, vous proposer un regard sur 7 jours d'actualité dans le monde avec les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Rendez-vous avec l'actualité africaine après le flash, avec vos messages aussi. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver cette émission sur l'appli RFI Pure Radio et sur le site de la station www.rfi.fr. Nous sommes cette semaine en compagnie de Ronnie Oberman, ancien président de Médecins Sans Frontières, professeur à l'université de Manchester et auteur de « Guerres humanitaires, point d'interrogation, mensonges et intox », un livre de conversation publié aux éditions textuelles. Bonjour Ronnie Oberman.
Bonjour.
Il s'agit d'une conversation avec l'anthropologue Régis Mérand, une conversation absolument passionnante sur la notion de guerre juste. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur cette notion de guerre juste aujourd'hui ?
Mais plusieurs choses qui menaient au même résultat. La première, sans ordre d'importance d'ailleurs, mais l'une des premières, disons, c'était le fait que, avec la responsabilité de protéger ce document ou cette nouvelle norme adoptée par les Nations Unies en 2005, la notion de guerre juste avec les critères qui lui sont attachés revenait à l'ordre du jour, et ça a donc été, de la part des Nations Unies qui sont censées au contraire établir la paix, contribuer à la paix par la coopération, c'était une nouveauté qui m'a intrigué. Mais il y avait aussi un point de vue, disons, plus personnel, si j'ose dire, c'est-à-dire dans mon parcours à Médecins Sans Frontières, lorsque MSF, à deux ou trois reprises dans son existence déjà longue, 45 ans, donc deux ou trois reprises, ça n'est pas beaucoup par rapport à tout ce que MSF a fait, mais tout de même c'est significatif, MSF a donc appelé à des interventions armées à deux ou trois reprises pour défendre des populations sur le point d'être massacrées, ou je pense en particulier au génocide rwandais, quand MSF a voulu qu'une intervention vienne protéger les Tutsis en voie d'être totalement exterminés, mais également un peu plus tard au Congo, lorsque les fuyards, les Rwandais fuyards, essentiellement des Hutus, étaient eux-mêmes traqués par le nouveau régime rwandais. Donc ne serait-ce que ces deux appels-là, plus moi j'avais un titre plus ou moins personnel, appelé à détruire les batteries serbes qui surplombaient Sarajevo à l'époque de la guerre, et qui étaient la clé du siège. Donc disons, à deux ou trois reprises, MSF, moi en tant que président d'MSF, ont appelé à l'exercice de la violence pour la protection de populations civiles. D'où le fait que je ne pouvais pas me déclarer pacifiste, et que MSF n'est pas une organisation pacifiste par ailleurs. Elle est pacifique, naturellement, MSF n'agit que avec des moyens médicaux et pas du tout autre chose, naturellement. Mais du coup, la question de savoir comment, dans quelles circonstances, selon quelle modalité on peut appeler à l'usage de la violence, restait ancré en moi comme une sorte de question lancinante. Et c'est la guerre de Libye, c'est cette guerre qui a été une formidable imposture, présentée comme une guerre humanitaire, comme une guerre juste, qui m'a donné envie de revenir dessus, en la problématisant pas simplement sous la forme d'un tract, en disant tout ça c'est des tromperies et je ne veux pas en entendre parler, mais en essayant d'analyser dans quel cadre se situait cette guerre de Libye, que j'ai condamnée tout de suite, mais que je trouvais intéressante en tant qu'objet d'analyse.
Moi, ce qui me frappe, Ronnie Oberman, on va reparler de la Libye dans la deuxième partie de l'émission, naturellement, quand on parlera de l'actualité française et africaine aussi. Ce qui me frappe, c'est cette espèce d'engrenage ces dernières décennies, en fait, d'intervention étatique au nom de l'humanitaire. Ça, c'est un vieux débat. On a quitté la question un peu théorique de la place de l'État dans l'action humanitaire au débat sur carrément les guerres menées par les États au nom de l'humanitaire. On a franchi un seuil.
Tout à fait. Les guerres menées au nom de l'humanitaire ou pour un objectif louable comme l'émancipation des femmes, l'éducation des petites filles, la construction de l'État, le rétablissement de la confiance dans un pays. Là, je pense en particulier à l'Afghanistan, mais également dans une certaine mesure à l'Irak. Et une des choses qui frappe en premier lieu, c'est l'absence totale de considération pour les expériences antérieures, qui ont toutes échoué. On sait qu'une armée étrangère qui se situe en position d'occupation, quelles que soient ses intentions, finit par être rejetée parce que les habitants d'un pays ne veulent pas se voir, ne veulent pas voir une armée étrangère ou une coalition d'armées étrangères leur dicter la loi. Donc même une bonne loi, même une bonne mesure devient suspecte et objet de rejet lorsqu'elle est imposée de l'extérieur. Et cette leçon-là, manifestement, bien peu l'ont en tête, en tout cas pas tout le monde, et en tout cas pas ceux qui sont en mesure d'envoyer leurs troupes à l'extérieur.
Alors partons pour la Russie, un des membres permanents du Conseil de sécurité, on parlera du Conseil de sécurité dans cette affaire de guerre juste, entre guillemets. Partons donc pour la Russie, ironie, avec bien sûr la réélection de Vladimir Poutine pour 6 ans à la présidence de la Russie, avec un peu plus de 76% des voix, son plus gros score depuis plus de 18 ans au pouvoir, Daniel Valo.
Vladimir Poutine s'avance sur la scène avec un large sourire. Le président russe s'adresse à ses partisans rassemblés devant lui.
Cette victoire, c'est la reconnaissance du travail accompli. Nous allons continuer à travailler tous ensemble, de manière tout aussi responsable et efficace.
Dans la foule, Ludmila se protège du froid dans son manteau de fourrure. Venue avec deux amis, elle se dit ravie de l'élection de son président.
Je suis très heureuse. Vladimir Poutine a tout donné à la Russie. D'abord, il nous a rendu la Crimée. Ensuite, il nous a rendu plus forts. C'est un vrai leader. Il a des convictions et c'est un homme, un vrai.
Non loin de là, un homme plus jeune s'interroge, lui, sur le nouveau mandat de Vladimir Poutine. Alexander espère que le président russe engagera les réformes qu'il estime nécessaires pour la Russie.
Il faut réformer l'économie. Nous dépendons beaucoup trop du gaz et du pétrole. Il faut que les entreprises puissent se développer. Je pense que c'est très important.
Vladimir Poutine quitte la scène. Son discours n'aura duré que quelques minutes. Et comme à son habitude, il n'aura donné aucune indication sur la politique qu'il entend mener pour les 6 prochaines années.
Alors en Crimée, Ronny, territoire annexé par Vladimir Poutine en 2014, les électeurs ont aussi voté Poutine en masse. Reportage dimanche soir, cette fois d'Étienne Bouch à Sébastopol.
Il est 20h, politiques, militaires et personnalités proches du pouvoir viennent déposer des œillets au pied du mémorial des défenseurs de Sébastopol. L'ambiance se veut solennelle. Au micro, ses représentants veulent écrire une nouvelle page de l'histoire de la ville.
Aujourd'hui est un jour significatif. Les élections ont eu lieu et j'espère qu'ensemble, en nous rendant aux urnes, nous avons exprimé notre gratitude et à quel point nous sommes reconnaissants à notre président et à la Russie.
Les résultats de l'élection ne sont pas encore connus, mais peu importe. Ici, il n'était pas question de compétition entre candidats, il s'agissait de plébisciter celui qui a permis à la Crimée de revenir dans le giron de Moscou. À tel point que le scrutin s'apparentait à un deuxième référendum.
Les habitants de Sébastopol ont eu le courage de défendre le choix de 2014. Nous avons aussi défendu notre monde, la langue russe, notre histoire et notre droit à vivre au sein de la Grande Russie.
Les intervenants s'expriment devant un public acquis. À Sébastopol, la popularité de Vladimir Poutine est réelle. Les incitations à participer au vote ont toutefois été particulièrement appuyées afin d'offrir au président russe un résultat triomphal.
Vous aviez l'air particulièrement accablé, Ronny, en écoutant ces deux reportages.
Oui, parce que j'ai le sentiment, vu de l'extérieur et sans être un connaisseur de la Russie, que Poutine est plutôt un malheur pour son peuple qu'une ressource, qu'un sauveur. Le népotisme, la violence, la corruption règnent en maître dans le pays, mais il est vrai qu'aux yeux des Russes, il a réussi à restaurer une fierté nationale en rendant à la Russie son statut de grande puissance sur la scène mondiale. Et c'est visiblement cet aspect-là de sa personnalité qui l'emporte sur ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas à l'intérieur, parce que sinon, enfin, la Russie est aussi un tombeau pour les journalistes. Lorsqu'ils ne sont pas persécutés, ils peuvent être directement assassinés. Rappelons-nous les Jeux de Sotchi où quelque chose comme 12 à 15 milliards d'euros ouais. ont été évaporés, mais pas perdus pour tout le monde, puisque ce sont essentiellement les amis de Poutine, ses amis d'enfance, enfin son entourage immédiat, qui ont empoché ces énormes sommes. Donc le népotisme et la violence ne sont pas des termes comme lancés en l'air. Enfin, c'est une réalité politique et humaine presque quotidienne dans ce pays. L'annexion de la Crimée, je rappelle que la Crimée, avant d'être russe, était tcherkesse, que un génocide, enfin pratiquement une extermination a eu lieu là-bas, alors qu'en effet, la population qui a remplacé ceux qui ont été tués ou chassés, elle est pour le pouvoir colonial, mais enfin c'est dans ces circonstances-là que la Crimée est russe. Donc tout cela laisse un peu abasourdi. Cela étant, je veux préciser quelque chose pour éviter de me situer dans une sorte de camp poutinophobe que je trouve par ailleurs souvent excessif. Par ailleurs, donc, la communauté, disons l'Occident, l'Europe et les États-Unis se sont comportés avec Poutine systématiquement comme avec un ennemi, comme avec une puissance hostile, susceptible d'attaquer, d'envahir un peu partout. Et là, je pense qu'il y a eu un excès de l'autre côté. Et par exemple, le fait de vouloir faire venir l'Ukraine dans l'Europe sans en parler à la Russie, comme en faisant une sorte de coup en douce,
comme une provocation.
C'est inévitablement pris comme une provocation, même si l'Ukraine est un pays indépendant et que on doit s'adresser à ce pays aussi en tant que pays indépendant. L'histoire ne peut pas être effacée d'un seul coup. L'Ukraine faisait partie de cette grande Russie. On ne peut pas d'un seul coup l'ignorer. Et par ailleurs, la Russie est entourée de missiles, de radars antimissiles, d'armements extrêmement sophistiqués, et donc le sentiment d'asphyxie ou d'encerclement que des Russes peuvent avoir n'est pas non plus une fabrication propagandiste de Poutine. Donc il est, c'est un sujet à prendre avec beaucoup de précautions, mais sans oublier que tout de même, c'est d'abord un malheur pour son peuple.
Une semaine d'actualité.
Direction la Turquie maintenant, Ronny Bourman, dont l'armée a vaincu les Kurdes et conquis la ville d'Afrin. Le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'il allait élargir à d'autres villes tenues par une milice kurde son offensive dans le nord de la Syrie au lendemain donc de la prise par les forces d'Ankara de cette enclave d'Afrin. Istanbul, Alexandre Billette.
Les forces turques s'installent à Afrin, les opérations de déminage se poursuivent, des blindés turcs sont toujours positionnés au carrefour du centre-ville. Et fort de cette victoire, le président turc le confirme, l'objectif de l'armée turque est de poursuivre vers l'est, tout au long de sa frontière jusqu'à l'Irak, voire en Irak, comme l'a annoncé Recep Tayyip Erdogan.
Si vous nous demandez maintenant, la mission est-elle terminée? Non, bien sûr. Nous avons posé une virgule, nous devons maintenant mettre le point final. Nous allons poursuivre ce processus jusqu'à la destruction finale de ce corridor de la terreur. Jusqu'au nord de l'Irak, nous allons prendre le contrôle des camps terroristes si nécessaire. Si le gouvernement irakien peut s'en occuper, tant mieux. Sinon, nous irons jusqu'à la ville de Sinjar pour éliminer le PKK.
Reste à voir comment l'armée turque entend avancer puisque la prochaine étape est logiquement la ville de Manbij, contrôlée par les forces kurdes qui sont cependant appuyées par des militaires américains.
À suivre dans nos journaux, cap vers la Syrie maintenant, avec un accord entre le régime et les rebelles dans une zone de la Ghouta orientale. Ces derniers seront évacués à Beyrouth jeudi. Explication de Paul Khalife.
Harasta est la plus petite des trois dernières poches encore aux mains des rebelles dans ce qui était leur bastion de la Ghouta orientale. Sous le contrôle des insurgés depuis 2012, cette banlieue du nord-est de Damas était considérée comme une forteresse imprenable, une épine dans le pied du régime. Encerclés de toutes parts, sans voie de ravitaillement, les rebelles ont finalement accepté de cesser le combat. Des sources du régime et de l'opposition ont annoncé un accord d'évacuation conclu sous l'égide de la Russie par l'intermédiaire de notables de la région. 1500 combattants du groupe islamiste Ahrar al-Sham et 6000 membres de leur famille quitteront cette enclave pour la province d'Idlib dans le nord-ouest. L'évacuation commencera dans les heures à venir et se déroulera en deux temps. Des dizaines d'autres combattants resteront sur place après avoir accepté les termes de ce que le régime appelle une réconciliation qui s'apparente plus à une reddition selon des sources de l'opposition. Les combats continuent autour des deux autres poches de Douma au nord et Harbin au sud de Damas. Les troupes gouvernementales accentuent leur pression pour imposer un accord similaire aux rebelles et aux djihadistes qui contrôlent toujours ces deux dernières enclaves à l'est de Damas.
Alors la Turquie, Ronnie Roman, un auditeur qui s'appelle Hippolyte, qui nous écoute à Passagon au centre du Bénin, se demande si la Turquie a encore sa place aujourd'hui dans l'OTAN. Bonne question, non ?
Oui, c'est une bonne question, mais qui en appelle une autre. Enfin, moi, je ne peux pas me prononcer sur cette question, je n'ai pas les qualités pour ça. Mais en tant que citoyen, ce que je me pose comme question, c'est aussi sur l'existence même de l'OTAN. Hein, l'OTAN, je le rappelle, a été créée en réaction à la constitution du pacte de Varsovie en 1949. Tant que le pacte de Varsovie existait, l'OTAN avait une raison d'être, qui était la sécurité de l'autre côté du rideau de fer. Depuis la disparition du pacte de Varsovie, l'OTAN n'a fait que se renforcer, que étendre son emprise, on en parlait à l'instant, notamment autour de la Russie.
Et en dehors des frontières, effectivement, européennes, voilà. Largement.
Puis maintenant, l'OTAN, je rappelle que AN, le AN de l'OTAN veut dire Atlantique Nord, mais c'est par exemple l'OTAN qui assure l'occupation militaire de l'Afghanistan. L'Afghanistan est quand même assez loin de l'Atlantique Nord. Autrement dit, on voit à quel point les missions de l'OTAN se sont étendues sous contrôle américain. Aujourd'hui, il me semble que c'est vraiment l'allonge du pouvoir américain qui est assuré par l'OTAN. Je ne vois vraiment pas pourquoi d'autres que les Américains feraient cela. Donc moi, personnellement, je suis pour la dissolution de l'OTAN et pas forcément pour son découpage, pour sa vente par appartement, disons, avec l'exclusion de quelques-uns.
Alors, ce qui s'est passé à Afrin, la victoire turque contre les Kurdes est un cas d'école en matière de réalpolitik, non ? Une fois encore, les Kurdes sont abandonnés.
Oui, mais alors, il y a un cas d'école plus englobant encore que l'histoire d'Afrin, c'est l'histoire des Kurdes dans cette région, dans son ensemble. Hein, je rappelle que les Kurdes ont toujours été les variables d'ajustement des politiques impériales ou ultranationalistes dans toute la région. Je rappelle qu'ils ont été aussi le bras armé des Ottomans au moment du génocide des Arméniens en 1915. Qu'ils ont été utilisés à l'époque, dans les années 70, par Kissinger, qui leur donnait 3-4 jours d'armement et de munitions, de sorte qu'ils puissent être une épine dans le pied du régime Baasis, qui était à l'époque plutôt du côté soviétique, mais qui ne puisse pas gagner, car les Américains ne voulaient pas qu'ils gagnent. Quand ils ont été gazés en 87, à l'époque où Saddam Hussein était du bon côté de la barrière, là, puisqu'il attaquait l'Iran, et que donc les Occidentaux le soutenaient. Ils ont été gazés à Al-Abja. Personne n'a réagi. Il n'y a pas eu même un froncement de sourcils. Des milliers et des milliers de morts à ce moment-là. Et on pourrait continuer cette liste. Donc les Kurdes semblent parfois oublier qu'ils peuvent avoir des alliés de circonstance, mais qu'ils n'ont aucun ami. Et c'est un constat triste, je veux dire, je ne me réjouis pas évidemment de faire ce constat, mais ils en tenaient compte au début de la guerre, en se tenant prudemment à équidistance de l'opposition et du régime, en refusant de se laisser embarquer dans cette guerre civile. Ils n'ont malheureusement, et je pense que c'est à leur corps défendant, pas pu rester sur cette position attentiste. Ils ont été comme aspirés dans ce conflit, et aujourd'hui, les voilà, Grosjean comme devant. La Turquie est bien décidée, et personne n'est en mesure de l'en empêcher, à contrôler le nord de la Syrie de manière à empêcher toute implantation des Kurdes, amis des Kurdes turcs, hein, des Kurdes syriens, amis des Turcs, le YPG, qui est ami du PKK turc. Et donc, on ne voit pas comment on peut empêcher cela aujourd'hui.
Ronnie Roman, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde de ces dernières heures. Et on se retrouve dans 3 minutes et là, on reparlera des guerres justes en prenant l'exemple notamment de la Libye et de la Somalie. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour à notre revue des principaux événements de la semaine, avec bien sûr les reportages de la rédaction, en compagnie de notre invité Ronnie Broman, qui vient de publier « Guerres humanitaires, mensonges et intox », un livre d'entretien avec Régis Méran, publié chez Textuel. Comme d'habitude, nous parlerons des grands titres de l'actualité africaine dans quelques minutes.
Une semaine d'actualité.
Mais pour le moment, Ronnie Broman, quelques événements en France, à commencer par la journée de grève et de manifestation des syndicats de fonctionnaires jeudi. Reportage à Paris, par exemple, de Patricia Lecomte.
Macron, touche pas à notre statut.
Infirmiers, surveillants de prison, officiers de justice ou encore enseignants, ils sont venus défiler pour qu'enfin, disent-ils, le gouvernement les entende. Leurs revendications portent, entre autres, sur leurs conditions de travail et leur salaire. Yvon est enseignant.
Nos salaires sont gelés, voire même aujourd'hui sont en baisse, puisque avec l'augmentation de la CSG en janvier, on a découvert une fiche de paye qui diminuait par rapport à avant. Parce que de fait, la CSG, elle n'est pas compensée, et les cotisations retraite augmentent. Alors que dans le même temps, ben voilà, on a aboli l'ISF. Il y a aussi la question des menaces sur la fonction publique, sur notre statut aujourd'hui, dans le cadre de la politique gouvernementale, qui entend réduire le nombre de fonctionnaires et développer la précarité.
Résistance ! Francis est fonctionnaire et travaille chez Orange à Rosny-sous-Bois, et selon lui, il y a urgence à agir.
Je suis là aujourd'hui parce qu'il est temps de faire quelque chose contre un président qui casse tout le droit du travail. Qui s'attaque surtout à nous, dernièrement les fonctionnaires, qui veut vraiment nous enlever tous les avantages qu'on a. Et si on continue comme ça, on va aller droit vers une révolution parce qu'on n'aura plus les moyens de les défendre.
Les syndicats se disent satisfaits par la mobilisation et considèrent maintenant que la balle est dans le camp du gouvernement.
L'actualité française, c'est aussi la prise d'otage dans un supermarché de Trèbes, dans l'Aude, un acte de terrorisme. On vous en parle bien sûr dans nos journaux. Revenons sur la longue garde à vue de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, dans le cadre de l'enquête judiciaire sur un présumé financement libyen de sa campagne électorale de 2007 et sur sa mise en examen avec contrôle judiciaire. Pierre Olivier.
Cette mise en examen intervient 5 ans après l'ouverture de l'enquête dite des financements libyens. Nicolas Sarkozy, entendu pour la première fois dans ce dossier, n'a semble-t-il pas convaincu les juges. Ces derniers ont estimé qu'il disposait de suffisamment d'indices graves et concordants pour inculper l'ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy est donc mis en examen pour financement illégal de campagne électorale, corruption passive et recel de fonds publics libyens. En cause, le financement d'une partie de sa campagne électorale victorieuse de 2007 avec de l'argent venu de Libye, dirigé à l'époque par Muammar Kadhafi. Pour Nicolas Sarkozy, c'est la 3e fois qu'il est mis en examen dans une affaire politico-judiciaire en cours. Mais cette fois, les juges ont assorti cette inculpation d'une mise sous contrôle judiciaire. Une mesure restrictive qui permet notamment aux juges d'interdire aux suspects d'entrer en contact avec certaines personnes ou encore de quitter un périmètre délimité. De son côté, Nicolas Sarkozy, présumé innocent et qui a toujours rejeté ces accusations, continuait de nier mercredi soir.
Et l'ancien président a dénoncé jeudi une calomnie, je cite, après cette mise en examen. Hier, c'était une exclusivité RFI d'ailleurs, vous avez entendu Mofta Missouri, l'ancien traducteur de Muammar Kadhafi, celui qui a assisté à tous ses entretiens avec Nicolas Sarkozy, Pierre Pinto.
Mofta Missouri dit avoir rencontré Nicolas Sarkozy pour la première fois en 2005. À ce moment-là, celui qui est alors ministre de l'Intérieur vient faire part à Muammar Kadhafi de sa candidature à la présidentielle de 2007 en France.
Je l'ai vu pendant une quarantaine de minutes. C'était à Tripoli. Il était venu en tant que ministre de l'Intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit « je veux peut-être me présenter aux élections présidentielles ». Il l'a dit comme ça, généralement, des généralités. Et le guide lui a répondu, c'est très bien, on va vous encourager, c'est vraiment très bien d'avoir un ami, un frère et un ami, à la tête de la France.
Selon l'interprète, il ne sera question d'un soutien financier à hauteur de 50 millions qu'en octobre 2006, lors d'une autre rencontre entre émissaires français et libyens. Rencontre qui a donné lieu à la fameuse note signée par Moussa Koussa, le chef des renseignements extérieurs libyens. Ce document est taxé de faux par la défense de Nicolas Sarkozy, mais pour Mofta Missouri, il est authentique. Il assure même l'avoir vu sur le bureau de Kadhafi en janvier 2007. Le guide aurait alors donné son feu vert pour 20 millions, tout en liquide.
Il y a tout simplement un petit récépissé qui se trouve actuellement également chez le chef comptable qui est actuellement prisonnier à Zaouia. Mais je ne sais pas où ce bout de papier se trouve. Normalement, quand on libère une somme d'argent, celui qui reçoit doit signer un petit récépissé, un petit reçu, quoi.
Si cette preuve existe, pourquoi Kadhafi ne l'a pas produite en temps utile? Parce que toutes les archives ont été dispersées quelques jours avant le bombardement de la forteresse de Kadhafi en juillet 2011, affirme l'interprète.
Le bout de papier est sans doute le plus recherché aujourd'hui par la justice française, sans doute, Ronnie Moorman. Alors là, nous sommes au cœur de votre sujet, au cœur de cette question des guerres justes. On va s'attarder un moment sur la Libye. Vous dites-vous, Ronnie, que la Libye, c'est notre guerre d'Irak à nous?
Oui, moi c'est ce qui me frappe en premier lieu, c'est notre guerre d'Irak, parce que cette guerre a été engagée sous un motif qui était celui de la sécurité et du sauvetage.
Protection de la population,
De la population de Benghazi, ouais. Menacée d'extermination, on a même parlé de génocide sur le point d'être perpétré. Mais on a commencé cette guerre avec en tête le bombardement des manifestants de Tripoli attaqués par les avions de Kadhafi. Et vous vous rappelez peut-être, c'était le 21 février 2011, oui. Vous vous rappelez peut-être que à cette occasion, les trois présidents susceptibles d'envoyer des troupes rapidement et loin de leur base, à savoir le président américain, le premier ministre britannique et le président français, ont tous les trois déclaré qu'un chef d'État qui envoyait l'aviation contre son propre peuple ne pouvait plus gouverner et que donc Kadhafi devait partir. À quelques variations près, ces propos ont été tenus par les trois chefs d'État que je viens de citer. Or, ce qui est intéressant, c'est que cette
très
scène n'a jamais eu lieu.
Et oui, c'est incroyable.
À aucun moment, l'aviation libyenne n'est sortie de ses bases. Enfin, il y a deux avions qui ont quitté leur base et c'était pour se réfugier à Malte. C'est tout ce que on a vu comme décollage d'aviation militaire. Donc, cette scène n'a jamais eu lieu. Elle a été le déclencheur de la guerre. Elle a été considérée comme authentique par la quasi-intégralité de la presse qui a repris ce récit complètement fictif. Et ensuite, on a eu des faux charniers quelques jours plus tard, annoncés par un représentant de la Ligue libyenne des droits de l'homme. On parlait de 6000 morts déjà en l'espace de quelques jours, alors que personne n'a vu non plus ces charniers. Et enfin, une colonne de chars qui se dirigeait vers Benghazi, colonne de chars qu'il était parfaitement loisible d'arrêter ou d'intimider par des survols, parce qu'on ne manquait pas de déploiement militaire européen dans le coin, mais que l'on a entretenu comme une espèce de suspense, de façon à déclencher cette résolution 1973, qui permettait, comme in extremis, l'arrivée des rafales français pour stopper telles les tuniques bleues qui venaient...
C'est ce qu'on appelle le storytelling, non ?
Voilà, c'est un formidable storytelling. Et quand je dis formidable, je veux dire qu'il n'a de formidable que la crédulité qu'il a rencontrée. Parce qu'après tout, le mensonge dans la guerre, c'est le premier ingrédient d'un...
Oui, mais un mensonge qui n'a jamais été d'ailleurs condamné. Bernard-Henri Lévy, qui est cité dans le livre, dans un livre qui s'intitule « La guerre sans l'aimer », journal d'un écrivain au cœur du printemps libyen, décrit, lui, ce supposé bombardement sur Tripoli.
Alors lui, il l'a vu à la télévision, au Caire, il raconte, c'est d'ailleurs le début de son livre. Et je vais reprendre peut-être, enfin je ne tiens pas spécialement à m'attarder sur Bernard Lévy, il n'est pas là, on va pas trop l'attaquer, mais tout de même, la première page de son livre nous explique, et je pense que de ce point de vue-là, il a raison, qu'il est toujours bon de s'intéresser au commencement.
Oui, c'est car on a toujours intérêt à fixer le commencement des choses, écrit-il.
Voilà. Et je suis d'accord avec lui, c'est important, ça raconte quelque chose de la suite. Toute la suite n'est pas contenue dans le commencement, mais une bonne partie. Or, le commencement, c'est cet énorme bobard répandu par Al Jazeera, auquel Bernard-Henri Lévy est le premier à ajouter foi, mais bien d'autres l'ont fait avec lui. Et en effet, cette guerre a commencé par une énorme intoxication propagandiste. Il n'y avait pas de manifestants à Tripoli, ou s'il y en avait, ils étaient bien discrets, et ils n'ont jamais été attaqués par aucune escadrille aérienne qui soit. Donc on commence avec ce bobard, on continue avec d'autres bobards, et voilà où on en est. On a semé le chaos, on a abattu un chef d'État. Je signale en plus que l'assassinat de Kadhafi a pour lui d'être un meurtre, car lorsque Kadhafi quitte Sirte dans une colonne de véhicules, ce ne sont pas des chars, ce n'est pas une armée offensive qui est là, c'est une colonne civile qui a été attaquée par une escadrille de l'OTAN. Kadhafi a été blessé, Il a été ensuite capturé par les rebelles et il a été ensuite assassiné en route vers la ville de Misrata. Mais cette attaque elle-même n'était justifiée par aucune considération militaire.
Et il faut rappeler que selon Claude Angéli du Canard Enchaîné, ce sont les Français qui ont demandé l'exécution de Kadhafi.
En effet, c'est l'information, disons, à vérifier sans doute, mais enfin c'est l'information qui circule.
Mais il y a aussi la résolution, le fameux vote de la résolution 1973 ou 1973 qui limitait en fait le domaine d'action des forces internationales à Benghazi, une protection même du ciel aérien, mais qui n'autorisait pas du tout la capture et la mort de...
Cette résolution était en réalité ambiguë tout de même. Ouais. Les juristes trouveront toujours...
Il y a de grandes discussions autour. Oui.
Voilà, ouais. Je connais des juristes qui disent finalement l'usage de tous les moyens nécessaires pour protéger la population libyenne pouvait être interprété comme...
Tous les moyens nécessaires. En fait,
tous les moyens nécessaires, eh bien, éliminer Kadhafi, ouais. C'est-à-dire la source même de la menace contre la population libyenne. Je ne dis pas que je fais mienne cette interprétation, je dis qu'elle n'est pas impossible. Mais l'esprit de cette résolution, lui, il est clair. La lettre était interprétable, mais l'esprit ne l'était pas. L'esprit, c'était de protéger Benghazi contre cette, à mon avis, éventuelle assaut de charge. Je rappelle tout de même, parce qu'on perd souvent les ordres de grandeur, et je les rappelle là. La ville dans l'histoire qui a été écrasée par des chars, c'est Budapest en 56. Il y avait 10 000 chars qui ont envahi Budapest, 75 000 hommes. La population de Budapest n'était pas armée, ou à peine. Et en une semaine, après 4 000 morts, le contrôle a été pris. Là, on parle de quelques dizaines de chars, de quelques centaines d'hommes. Donc on est dans des échelles tout à fait différentes, et Benghazi est une ville importante, d'un million d'habitants, très étendue, avec une insurrection armée. Bref, le rapport de force n'a rien à voir avec ce que l'on observait à Budapest, et donc cette menace d'extermination, cette rhétorique meurtrière du fils de Kadhafi, Saif al-Islam, qui disait qu'on allait faire couler des fleuves de sang dans les rues de Benghazi, tout cela relevait d'une menace, certes, qui était proférée, et après tout, dans l'idée... On peut imaginer que le régime de Kadhafi commette des crimes de masse, mais dans la pratique, il n'en était pas capable.
Pour que les choses soient claires, certains auditeurs doivent se dire, Ronny Moorman se fait l'avocat de Muammar Kadhafi, ce qui n'est pas du tout vrai, évidemment. Vous examinez les faits et vous dites qu'il y aurait pu y avoir un autre règlement, une autre façon de régler la question.
Oui, je pense notamment, par exemple, à un grand connaisseur de la Libye, qui est un ex-diplomate militaire et maintenant plutôt chercheur indépendant, qui est Patrick Hemzadeh.
Oui, qui était venu d'ailleurs en 2011 dans l'émission nous expliquer dès le départ le problème de la Libye.
Voilà, et qui la connaît admirablement bien, qu'il est arabophone, il a vécu longtemps là-bas, il a beaucoup d'intérêt pour le peuple libyen, et il nous explique dans son livre qui n'a rien d'une plaidoirie pour Kadhafi, au contraire, il est extrêmement sévère pour Kadhafi, il n'y a aucune connivence avec ce dictateur, mais il explique que la Jamaïria libyenne, le système public libyen, si l'on veut, fonctionne selon un régime de négociation constante, de discussions permanentes. Ce ne sont pas simplement les forces, les répressions qui conditionnent les décisions, mais aussi des rapports de force locaux qui s'expriment par la mise à l'écart d'un tel, mais pas en prison, simplement écarté du pouvoir, mais continuant à recevoir son salaire, bénéficiant de son appartement de fonction, etc. Bref, un fonctionnement qui n'est certainement pas le fonctionnement, disons, européen, habituel, mais qui n'était pas un fonctionnement fondé sur l'usage constant de la violence. Et donc, il était sans doute possible, dans le cadre de ce soulèvement, de trouver des aménagements intérieurs, des possibilités de discussion, et cela d'autant plus que plusieurs pays étrangers, la Turquie, le Sénégal, l'Union africaine en particulier, se proposaient pour des médiations. Et celles-ci ont été impitoyablement et systématiquement écartées comme relevant d'un esprit de Munich, d'abdication. Vous voyez, il y avait d'un seul coup tous les résistants de la 25e heure là, qui étaient prêts à se battre jusqu'au dernier Libyen. Je veux dire les Français qui étaient prêts à se battre jusqu'au dernier Libyen et qui ont finalement disqualifié, au motif que c'était une lâcheté, toute possibilité de médiation. Donc aujourd'hui, avec ces gens-là, il faut savoir que quand on discute pour éviter une guerre, on est un lâche. Ce qui a été valorisé, c'est l'image du guerrier, du combattant, du tueur. Et c'est ça aussi qui laisse littéralement pantois, surtout lorsqu'on voit que les intellectuels, les éditorialistes, les partis politiques dans leur majorité soutenaient cette entreprise belliciste.
Et qui d'ailleurs critiquait quelques années plus tôt l'engagement de la presse américaine auprès du gouvernement lors de l'intervention irakienne aussi.
Alors c'est ce qui nous rappelle rapproche en effet aussi des Américains et de l'Irak. Les Français n'avaient pas assez de mots pour se moquer des Américains, enfin les journalistes français, de leurs homologues américains, leur crédulité, leur candeur, leur naïveté, voire de leur complicité. Mais lorsqu'il s'est agi pour la France d'entrer en guerre en Libye, on a vu exactement le même phénomène se reproduire. Et contrairement au New York Times, qui a eu le courage de revenir sur ses positions et les relais de propagande qu'il a assurés, je n'ai pas encore vu de journal français ou d'éditorialiste français faire amende honorable de leur enthousiasme pour cette guerre et de la catastrophe qu'elle a entraînée.
Et d'ailleurs, puisque nous sommes entre l'Afrique et la France, avec la Libye, il faut noter aussi que le Parlement français n'est pas très curieux non plus savoir ce qui s'est passé réellement à cette époque. Contrairement à ce qu'a fait le Congrès aux États-Unis.
Je trouverais salutaire, là, en tant que citoyen français, que, à l'instar, en effet, du Congrès américain ou du Parlement britannique, qui ont fait des enquêtes et publié des rapports extrêmement documentés, extrêmement précis sur ces entreprises guerrières, jusqu'à ce jour, le Parlement français n'a pas jugé utile de réagir. Alors, j'espère que la mise en examen de l'ex-président va susciter quand même quelques vocations, quelques curiosités, pour cette catastrophe.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, continuez bien sûr à nous écrire. Je salue aujourd'hui quelques auditeurs, comme chaque semaine, quelques auditeurs africains. Je salue Babacar au Sénégal, Stanislas à Bukavu en RDC, André à Kudugu, Aliou à Bamako. Bonjour à Noëlla et à Odilon à Antananarivo.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour l'Afrique, donc, Ronnie Broman, un continent que vous connaissez bien. Les dirigeants africains se sont réunis mercredi à Kigali, au Rwanda, pour lancer la zone de libre-échange continentale, la ZLEC. 44 pays ont signé, il va falloir s'habituer à cet acronyme, mais nous avons le temps, car le marché n'est pas vraiment pour demain. Gaël Lalex.
Un marché d'1,2 milliard de consommateurs sans frontières ni barrières douanières, le projet a de quoi faire rêver les plus grands groupes industriels. Mais les pays africains ont de sérieux ajustements à faire. Une zone de libre-échange, c'est bien, mais encore faut-il avoir des produits à échanger. Or, les économies africaines sont plus similaires que complémentaires. La plupart exportent des matières premières et importent des biens manufacturés. Le Mali aura peu d'intérêt à acheter le cobalt congolais ou le coton burkinabé, mais tous les trois ont besoin de coulis de tomates. Il faudra donc diversifier les économies du continent. D'autre part, ces économies ont d'importantes différences de compétitivité et le risque de dumping est grand. L'Afrique du Sud, par exemple, pays le plus industrialisé du continent, peut vendre à ses voisins des produits transformés à des tarifs battant toute concurrence. Dans ces conditions, comment les pays moins avancés pourront-ils développer leur industrie? Puis il y aura les réformes législatives, l'harmonisation douanière, le développement des infrastructures. Pour autant, l'Union africaine reste ambitieuse et table sur 2028 pour la naissance du marché commun et de l'Union économique et monétaire.
L'actualité africaine, c'est aussi au Burkina Faso le procès des auteurs du putsch manqué de 2015. 84 personnes sont sur le banc des accusés. Et au Burundi, la date du 17 mai, fixée par le président Nkurunziza pour le référendum controversé, on le sait, qui pourrait lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Une bonne nouvelle maintenant, Ronnie Broman, elles sont rares. Au Nigeria, une centaine d'écolières enlevées le 19 février par des militants islamistes de Boko Haram à Dapchi, dans le nord-ouest du pays, ont été ramenées mercredi matin à leur école par leurs ravisseurs dans des circonstances cependant qui soulèvent des questions. Julie Vandal.
en annonçant ouvertement il y a 10 jours privilégier la négociation plutôt que la force pour libérer les jeunes filles de Dapchi, Muhammadu Buhari a rompu avec les méthodes musclées de l'exécutif nigérian. Signe que ces enlèvements et plus généralement la question sécuritaire sont désormais très politiques. Ce mercredi, le ministre de l'Information, Lai Mohamed, a martelé que ces négociations avaient été facilitées par des pays amis et que la libération des adolescentes avait été, je cite, inconditionnelle. Reste à savoir avec quelle contrepartie. Sur son compte Twitter, la présidence nigériane a souligné qu'aucune rançon n'avait été versée, mais le calendrier électoral laisse à penser que l'administration Buhari a au contraire voulu accélérer les discussions pour éviter toute complication à moins d'un an de l'élection présidentielle. D'après des observateurs, la rapidité avec laquelle les jeunes filles ont été libérées écarterait d'ailleurs la piste d'un échange de prisonniers. Passé les réjouissances de cette libération, le paiement éventuel d'une rançon fait quant à lui craindre une multiplication des enlèvements de masse d'adolescentes dans les mois à venir.
Et terminons ce voyage en Somalie, un pays dont nous allons parler dans un instant avec vous, Ronnie. Avec un nouvel attentat à Mogadiscio cette semaine, une voiture piégée, 14 victimes et la revendication des islamistes Shebab, Nairobi, Sébastien Nemet.
Véhicule éventré, échoppe détruite, mur calciné, les Shebab ont de nouveau frappé. Leur objectif était incertain selon les autorités. Néanmoins, plusieurs éléments étaient réunis pour obtenir un grand nombre de victimes. La voiture chargée d'explosifs est égarée en face de l'hôtel Weheliye, un lieu très prisé notamment par les politiciens et entrepreneurs. Un bâtiment également situé dans ce que l'on présente comme l'artère la plus fréquentée de la capitale, la Maka al-Mukarrama. Dans leurs revendications, les Shebab affirment avoir aussi tué des militaires et des agents de renseignement, mais les autorités assurent que la plupart des victimes sont des civils. L'attaque survient dans un contexte propice à l'instabilité en Somalie, avec une lutte de pouvoir entre le président de l'Assemblée et le Premier ministre. Chaque camp a mobilisé des élus pour évincer l'autre. Cette tension politique s'est diffusée dans l'appareil sécuritaire, explique Rachid Abdi de l'International Crisis Group. La tension est montée au point que des militaires ont été déployés autour du Parlement. Une crise somalienne alimentée par celle du Golfe, avec d'un côté les Émirats donnant des signes de soutien au président de l'Assemblée et de l'autre le Qatar, penchant plutôt du côté du Premier ministre. Selon Rachid Abdi, tout cela détourne l'attention des forces de sécurité et facilite les attaques terroristes.
Alors ça, la Somalie, c'est un pays que vous connaissez bien, Ronnie Bourman. Je rappelle que vous venez d'écrire « Guerres humanitaires » avec un point d'interrogation, « Mensonges et intox ». On a parlé de la Libye, qui est un cas d'école en matière de guerre juste, entre guillemets, de dévoiement de la guerre dite humanitaire. Mais la Somalie, au début des années 90, c'était pas mal aussi.
Oui, d'ailleurs.
Il faut rappeler d'ailleurs un petit peu le contexte.
On peut considérer que c'est la première guerre humanitaire. En tout cas, c'est la première qui a été labellisée humanitaire.
C'est-à-dire une intervention de l'ONU et des Américains, d'ailleurs, au nom de l'action humanitaire, parce qu'il y avait des situations de famine.
C'est ça. L'ONU, sous la direction de Boutros Boutros-Ghali, qui était le premier secrétaire général de l'organisation après la guerre froide, et qui donc avait le projet de redonner... Enfin, de donner ou de redonner, selon la manière dont on interprète le mot, à l'ONU, ses capacités d'intervention, de gestion de crise sur la scène internationale, par le moyen notamment d'interventions armées, de stabilisation, d'endiguement de la violence. Projet qui n'est pas en lui-même scandaleux. On peut considérer que c'est louable. Ça fait partie des missions de l'ONU que de contribuer à la stabilisation et à la paix internationale. Ce qui a été particulièrement fâcheux, pour le dire gentiment, ça a été qu'on a finalement mis à l'écart les moyens de répondre à cette famine par des livraisons de vivres régulières et de grande envergure, comme nous étions un certain nombre à le demander. J'étais président de Médecins Sans Frontières à l'époque et j'avais participé avec la Croix-Rouge internationale à une campagne de sensibilisation et d'appel pour que l'aide alimentaire d'urgence soit renforcée et qu'elle soit assurée de manière régulière, ce qui était la condition pour faire descendre le prix des vivres et donc diminuer l'intérêt des attaques de convoi, ce qui était la chose primordiale à l'époque. Malheureusement, cette politique n'a pas été suivie. Je ne sais pas si elle aurait marché, mais elle n'a pas été tentée, donc on n'en saura jamais rien. Elle n'a pas été suivie et la Somalie a plutôt été utilisée comme une sorte de laboratoire de cette nouvelle politique des Nations Unies. Donc son rôle de banc d'essai, si l'on veut, elle l'a payé très cher.
Sous le feu des projecteurs.
Voilà, l'intervention américaine a eu lieu donc en décembre 92, à la tête d'une coalition qui emmenait une trentaine de pays.
C'est l'opération Restore Hope.
Voilà, l'opération Restore Hope, qui est restée comme un fiasco, puisque finalement les forces internationales sont devenues un clan parmi d'autres, ont été en quelque sorte aspirées dans cette guerre de clans. Elles ont tué beaucoup, et moi j'avais sorti un petit livre à l'époque qui s'appelait « Somalie, le crime humanitaire » pour dénoncer le fait que le drapeau de l'humanitaire avait été en fait celui sous lequel on avait tiré sur des civils et tué des gens, pour des raisons qu'on a aujourd'hui encore du mal à comprendre. Mais en fait, elles ont une certaine rationalité, si l'on veut bien considérer que les résultats d'une action ne sont pas forcément ceux qui sont attendus. Ce qui était attendu, c'était une stabilisation. Ce qui s'est produit, c'est au contraire une aggravation des conditions. Et où l'on voit que l'usage de la force est très souvent considéré comme vertueux, bien au-delà de ses limites. Une armée, ce qu'elle sait faire, c'est défaire une autre armée. C'est éventuellement la vaincre. Ça, oui, c'est pour ça qu'elles sont faites, les armées. Mais créer de la confiance, reconstruire un État, ça, c'est autre chose.
Et puis vous citez quelque part Pierre Hassner qui dit que quand on s'engage dans une guerre, on sait jamais comment ça va se terminer. En plus, donc ça, il faut le savoir. Vous pensez que, vous disiez au début de l'émission qu'on ne tenait jamais compte des enseignements du passé, vous pensez que là, vous ne pensez pas qu'on arrive aujourd'hui à une situation où, au contraire, les États peuvent tirer les conclusions?
Non, il n'y a rien qui le laisse entrevoir.
Non.
Moi, j'appelle de mes voeux cette commission d'enquête parlementaire et ce retour de la presse sur sa propre expérience et sur un certain nombre de ses errements comme une façon de donner plus de force à cette réflexion sur les échecs et les catastrophes entraînées par ces échecs militaires. Pour l'instant, je ne vois rien venir, et donc rien ne dit qu'on ne va pas recommencer les mêmes errements.
Hélas, tiens, on vient de recevoir un message d'André qui nous écoute à Ouagadougou, qui nous dit que souvent les guerres au nom de l'humanitaire sont faites par des pompiers pyromanes. C'est un petit peu ce que vous venez de dire. Merci Ronnie Bourman. Votre livre que je recommande, cette conversation, est publié chez Textuel sous le titre « Guerres humanitaires, mensonges et intolérances ».
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Merci de votre fidélité à ce magazine. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.